Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finances, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? Nobody but you and me. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ces nouvelles chroniques de Maître Marie. Alors, vous le savez, si je fais ces chroniques sur Esprit Occitanie, c'est notamment parce que je suis avocat. 15 ans de barre cette année, 15 ans que j'exerce ce métier. Je l'exerce plutôt au civil, très rarement au pénal. Et le milieu des avocats pénalistes, mais tous les avocats en réalité, ont été secoués la semaine dernière par un incident d'audience. Alors, un incident d'audience, qu'est-ce que c'est ? Oui, parce que c'est une expression qui a un sens pour les avocats. C'est la survenance d'un événement imprévu au cours de l'audience de nature à perturber son déroulement, voire à le neutraliser. L'incident doit être résolu avant le commencement ou la poursuite des débats. Ça peut être un problème de respect du contradictoire, une absence de communication de pièces, une demande de renvoi à laquelle la partie adverse s'oppose ou que le juge refuse. Si vraiment les choses ne peuvent être réglées, alors le bâtonnier ou un de ses représentants, membre du Conseil de l'Ordre, peut être appelé. Cet incident est réglé par le magistrat dans le cadre de son pouvoir de police de l'audience. Alors là encore, c'est quoi la police de l'audience ? C'est la terminologie par laquelle on désigne le pouvoir donné au magistrat chargé de présider une audience, lui permettant de prendre toute mesure nécessaire au respect des débats. L'article 438 du Code de procédure civile nous dit « Le président veille à l'ordre de l'audience, tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur État. En toute matière, qu'il s'agisse d'un procès civil ou pénal, le magistrat qui préside l'audience et dirige les débats règle tout ce qui peut constituer un incident et pas seulement un incident de procédure. Parce que ça, on pourrait débattre et vous expliquer pendant des heures, mais on fait aussi des incidents dans les procédures. Mais ceux-là, ils ne sont pas sanctionnés ou non par le magistrat. Bref. S'il constate qu'une personne crée un trouble à l'ordre public, le magistrat peut requérir le substitut du procureur à l'audience ou faire appeler les forces de l'ordre et ordonner l'expulsion du trublion, la remise de l'individu à la police, dresser un procès-verbal de l'incident qui sera transmis au parquet ou le renvoi de l'affaire à une autre date d'audience. Et bien sûr, le président règle les incidents d'audience qui pourraient opposer des avocats entre eux et peut saisir le bâtonnier, le représentant du parquet. Et la semaine dernière, à Aix-en-Provence, on a un peu mis les mots « incident, pouvoir de police » dans un shaker, on a secoué très fort et force est de constater que ce qu'il en est ressorti n'était pas génial puisque ce pouvoir de police de l'audience a été utilisé de manière abusive par un magistrat du tribunal correctionnel. Alors que s'est-il passé ? Il s'agissait d'évoquer à cette audience un dossier de trafic de stupéfiants, tout ce qu'il y a de plus classique, et Maître Paul Solacaro, avocat de l'un des 11 prévenus dans ce dossier, a voulu obtenir la disjonction du cas de son client positif au Covid-19. Autrement dit, il aurait aimé que son client soit jugé à part des autres à une autre audience parce que, en raison de son test PCR positif, il ne pouvait pas être présent à l'audience et y assister. Une requête aussitôt rejetée par le président d'audience qui s'est également opposé à ce que le prévenu se présente devant le tribunal. Alors il faut d'ores et déjà préciser que depuis l'existence de la pandémie, le test positif au Covid-19 est et a été un motif très fréquent de renvoi, notamment devant les juridictions civiles. On ne compte plus les audiences avec comparution personnelle obligatoire des parties renvoyées justement parce que les gens avaient un test PCR positif ou les dossiers renvoyés parce que les avocats eux-mêmes avaient un test PCR positif et ne souhaitaient pas se présenter aux audiences pour préserver leur santé, mais également et surtout celle des autres personnes présentes à l'audience. Alors, selon des avocats présents donc à cette audience à Aix, la situation s'est alors envenimée et dans la confusion et après de vifs échanges, le président a demandé l'intervention de la police pour faire sortir Maître Solacaro, et on pourrait même dire pour sortir Maître Solacaro, puisqu'il a été empoigné par les policiers. Par solidarité, tous les autres avocats présents ont également déserté le tribunal. Alors, il est fréquent que sur les audiences correctionnelles, il y ait des échanges vifs entre le président, le procureur représentant l'intérêt général et puis l'avocat de la défense. S'ils sont tous censés œuvrer pour que justice soit rendue, leurs intérêts divergent parfois quelque peu. Mais si ces échanges peuvent être vifs, ils ne doivent en aucun cas mener à l'expulsion d'un avocat en robe d'une audience par des policiers. Alors je rappelle que selon l'article 3 de la loi de 1971 relative à la profession d'avocat, les avocats sont des auxiliaires de justice. Ils prêtent serment en ces termes, je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Ils revêtent dans l'exercice de leur fonction judiciaire le costume de leur profession. Auxiliaires de justice revêtant leur costume dans le cadre de leur mission. Ils ne sont donc pas censés être expulsés d'une salle d'audience et encore moins manu militari par des policiers. Alors, cette expulsion, elle pose deux difficultés. La première, c'est celle du mépris des droits de la défense, puisqu'un prévenu a le droit d'assister à son audience, qu'il a le droit d'être assisté d'un avocat et que là, en l'occurrence, ni le prévenu ni l'avocat n'auront pu assister au débat parce qu'il n'y a pas eu la demande de renvoi n'a pas été acceptée, mais après, le président a continué son office et le dossier a été pris. Hein. Oui, parce que n'en déplaise à ceux qui considèrent que quand on a fait des bêtises, on doit assumer sa responsabilité et que pour un peu, on pourrait prévoir un jugement expéditif et forcément tant qu'à faire la prison. Je rappelle quand même que l'existence des avocats et le fait que chacun ait le droit d'être défendu et jugé dans le cadre d'un procès équitable, c'est ce qui fait de nous un pays libre, une démocratie, et qui nous différencie notamment des pays sous régime dictatoriaux et ou berceau du terrorisme. C'est ce qui fait aussi que, Dieu merci, nous n'en sommes plus à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, car rien ne démontre que ce système était notamment plus salvateur et plus réparateur pour les victimes. Voyez par vous-même, vous prenez une claque, vous en collez une à quelqu'un, est-ce que vous êtes vraiment soulagé? Pas sûr, ça crée une tension supplémentaire, mais il n'est absolument pas dit que vous vous sentiez, vous, considéré et réparé dans le fait d'avoir pris une tarte le premier. Les débats du procès pénal permettent de reprendre le dossier et donc parfois d'apaiser la douleur des victimes, de voir le prévenu adresser des excuses et de permettre à chacun finalement de faire son chemin après les événements qui ont pu être difficiles. Ces débats sont donc primordiaux humainement et juridiquement. La seconde difficulté, c'est celle du mépris évident en l'espèce de l'avocat et de ce qu'il représente de sa mission dans une salle de tribunal. Comme l'a rappelé le Conseil national des barreaux, le pouvoir de police de l'audience qu'un président de tribunal correctionnel tire de l'article 401 du Code de procédure pénale n'est pas un pouvoir arbitraire. Et comme je l'ai dit précédemment, un avocat revêtu de sa robe exerce sa mission et est un auxiliaire de justice. Alors qu'on soit clair, il ne s'agit pas là de défendre le privilège d'une profession, ça n'a rien à voir quelque part. N'importe quelle personne sortie d'une salle d'audience, c'est toujours choquant. Après, quand c'est un prévenu qui manque de respect, par exemple, au président, bon, on peut davantage comprendre qu'il soit sorti de la salle d'audience. Mais ce que les avocats voient dans cet incident, ça va bien plus loin qu'un incident de personne. L'avocat en robe qui défend son client, c'est le symbole même d'un droit, d'une liberté fondamentale. Il exerce une mission de défense. C'est ce qui lui confère donc aussi une certaine protection. Et si des uniformes commencent à se saisir d'un représentant des libertés fondamentales, je vous laisse vous poser les bonnes questions et en tirer les conclusions vous-même. Où va-t-on? Et à quoi veut-on ressembler? L'avocat dispose de la plus large liberté d'expression dans le cadre d'un procès. L'article 41 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1880, alors qui est celle sur les libertés de la presse, mais dispose que pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur ont été réservées par les tribunaux et dans tous les cas à l'action civile des tiers. Donc en fait ne sont pas protégés les faits étrangers à la cause. L'appréciation de ce qui est relatif à la cause est assez largement entendue et en fait il suffit que les propos soient formulés dans l'intérêt de la défense. Alors, par exemple, le fait pour un avocat de reprocher à un magistrat sa partialité à raison d'une appartenance à une alliance secrète entre personnes de même idée et de mêmes intérêts s'entraidant au sein d'un réseau occulte afin d'obtenir des avantages n'a pas été considéré comme étranger à la cause. Il y avait un lien avec le dossier en l'espèce. Les juges admettent aussi que cette immunité permet à l'avocat de critiquer le fonctionnement de la justice telle qu'elle aurait ou sera rendue dans le cadre d'une plaidoirie. Donc le fait pour un avocat d'employer les termes « justice honteuse » bénéficie de l'immunité et n'est pas considéré comme outrageant. Mais la conclusion impuissante d'un raisonnement constatant l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'avocat de faire entendre une cause dont il était fondé à penser qu'elle était juste. La protection ne s'applique pas aux propos tenus hors de la salle d'audience ou des juridictions, tant en ce qui concerne des propos écrits que des paroles à destination de la presse à la sortie de l'audience. Donc vous voyez qu'il y a quand même un cadre très particulier qui est celui de la salle d'audience et du procès. Et là, vous voyez donc que même si, selon les déclarations du procureur présent à l'audience, les propos de Maître Solacaro auraient été assez vifs, il n'avait en aucun cas à être sorti de la sorte de la salle d'audience parce qu'il était dans le cadre d'un procès, dans le cadre de l'exercice de la défense et dans le cadre de l'exercice de la défense de son client. Il exerçait sa mission de défense et il avait donc la plus grande liberté d'expression dans ce cadre. Alors, il faut croire à un incident isolé lié à un magistrat, peut-être pour motif personnel, peut-être pour de la fatigue, peut-être pour des difficultés, je n'en sais rien. Mais l'incident est grave et en aucun cas il ne doit se reproduire. Il faut rappeler que les avocats sont des auxiliaires de justice, je vous l'ai répété maintes et maintes fois depuis le début de cette chronique, qu'ils œuvrent comme les magistrats dans le sens d'une bonne justice. Ce ne sont pas, ce ne devrait pas être deux camps qui s'opposent. Nous sommes censés travailler dans le même sens. Depuis plusieurs années, le climat des audiences au civil comme au pénal est gentiment délétère. Progressivement, on nous fait abréger nos plaidoiries, on nous explique même que c'est pas nécessaire de plaider, le dépôt des dossiers est très fortement encouragé et il devient très difficile d'aller voir personnellement un magistrat dans son bureau quand on peut avoir une difficulté sur un dossier, une vraie difficulté technique ou procédurale, et il devient donc très difficile d'aller échanger avec les magistrats alors même que nous participons tous à la mission de justice et ce dans la même enceinte qui est celle du palais de justice. Comme l'écrivent nombre de mes confrères dans une tribune parue dans Libération ce week-end, très bien écrite, ça ne peut plus et ça ne doit pas durer. Nous, avocats, sommes conscients des impératifs et pressions subies par les magistrats, notamment en termes de rentabilité. Mais piétiner les droits de la défense en audience n'est pas, ne peut pas être, ni envisagé, ni toléré comme une option ou comme une variable d'ajustement pour assurer la célérité attendue et demandée par la chancellerie. Donc il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour une justice apaisée, efficiente et efficace, et pas les uns contre les autres. Voilà, c'était l'incident d'audience sur lequel je souhaitais revenir dans ce patchwork. Si vous souhaitez nous réécouter, eh bien retrouvez cette chronique ce soir à 23h et aussi mercredi matin à 10h. Et bien sûr, dans la magnifique bibliothèque de podcasts sur Esprit Occitanie, www.espritoccitanie.fr. On se retrouve la semaine prochaine et je vous laisse en compagnie de mes acolytes. À bientôt. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? Nobody but you and me.
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique La lectrice d'Occitanie. Je vous fais découvrir cette semaine le chapitre 12 du roman La suerte de matar de Frédéric Coudron aux éditions Au diable Vauvert. Juin 2018, campagne de Madrid, Ganaderia Victorino Vega. L'élevage en question n'avait rien à voir avec celui de Gabriel Rojas Fernandez. Ici, il y avait beaucoup moins d'opulence. Une hacienda de taille moyenne, peinte en blanc, jouxtait une sorte de hangar en parpaing rouge qui n'avait pas été enduit. Tout autour s'étalaient des pâtures à perte de vue où des groupes de taureaux se tenaient à l'ombre des arbres. Le fils de Victorino arriva sur un magnifique étalon à la robe noire. C'était un très beau jeune homme de 25 ans environ, brun, des cheveux mi-longs parfaitement coiffés, des yeux magnifiques d'une couleur étrange entre le jaune et le vert, de taille moyenne, svelte, apparemment imberbe, ce qui était peu commun chez les Espagnols. Il sauta de son cheval, exécutant un mouvement d'une élégance rare. « Hola, Manuel ! Hola, Davide ! » Ortega et lui engagèrent une conversation en espagnol que Paco me traduisit discrètement. En gros, le jeune lui dit qu'il est honoré de sa présence dans la ganaderia. Il dit que son père serait tellement heureux de le voir. Et Ortega passe son temps à expliquer que Victorino était un homme exceptionnel, plus qu'un ami, qu'il le considérait comme un frère, qu'il partageait le même amour des taureaux. Les deux hommes se mirent un peu à l'écart, mais Paco parvint à entendre ce qu'ils se disaient. « Ah, là il parle de toi, Lise. Ortega dit au jeune que tu vas l'aider à trouver l'assassin de son père. Il dit que tu es une spécialiste, que tu as une intelligence remarquable, qu'il en est encore plus convaincu depuis qu'il t'a rencontré en chair et en os. L'autre lui dit que tu es mignonne et sexy, ce qui ne gâche rien. Non, arrête, il ne dit pas ça. Si, si, je t'assure. Et Ortega répond que oui, tu as un charme fou, qu'à la base, il ne t'a pas fait venir pour ça, mais que tu lui plais beaucoup. » Paco ne me traduisait peut-être pas fidèlement la conversation entre Ortega et David et Vega, mais quoi qu'il en soit, j'étais flattée. J'avais besoin de ce genre de compliments, moi qui avais été tellement de fois déçue par les hommes. Je ne savais pas réellement pourquoi, mais je me sentais de plus en plus attirée par le matador. Il faut dire qu'il était extrêmement séduisant dans son jean slim et son trench beige. Il représentait pourtant tout ce que je détestais. Plutôt, dans la chambre, lorsque j'étais en sous-vêtements et qu'il avait débarqué, j'avais même, en plus de la honte, éprouvé une forme d'excitation. Cette attirance avait dû, de façon incontrôlée et très animale, modifier la façon dont je le regardais, car Carmen, animée par son sixième sens féminin, me fusillait littéralement du regard lorsque je posais les yeux sur lui. Sa jalousie transpirait, une jalousie bestiale. Je pense qu'elle aurait été prête à tuer pour cet homme. Le torero et l'éleveur s'éloignèrent vers l'un des champs et Rosalamon nous invita à les suivre. « Paco, filme !» Les deux hommes s'appuyèrent sur une clôture en bois et se mirent à regarder silencieusement un taureau qui se trouvait seul dans l'enclos. J'interrogeai l'apoderado. « Pourquoi il est seul, ce taureau? Ça ne marche pas par groupe ?»« C'est Balthazar, un taureau spécial. »« En quoi est-il spécial ?» Ortega l'a gracié à Nîmes l'année dernière. De loin, il me sembla que le matador avait les larmes aux yeux. Pas de tristesse, mais d'émotion. Soudain, il chuchota à l'oreille du ganadero. Ce dernier fit un signe à un de ses employés qui se tenait un peu à l'écart. L'autre s'approcha des deux hommes. Une discussion rapide s'engagea entre les trois et le sous-fifre repartit en direction de l'hacienda. Il y disparut quelques minutes, puis revint vers son patron Emmanuel, tenant un objet dans la main. Un objet que nous ne distinguions pas bien. J'interrogeai José Ramón. C'est quoi ? Vous allez voir. Alors, Ortega retira son trench et le tendit à David et Vega, qui s'en empara soigneusement. Puis, d'un geste d'une souplesse incroyable, il sauta par-dessus la barricade pour se retrouver dans l'enclos du taureau. Là, il demanda à l'employé de lui donner l'objet mystérieux, qui se déploya gracieusement pour révéler sa nature. C'était une muleta, la cape des matadors. « Il va torer ce taureau ? Taisez-vous, regardez !» D'un pas souple semblable à celui d'un danseur classique, il se rapprocha du centre de l'enclos. Lorsqu'il y fut, il se tourna vers moi étendit sa muleta dans ma direction, en baissant légèrement la tête, comme pour me saluer. « Il va torer pour vous, mademoiselle Delors. »«
Comment ça, torer pour moi ?»«
Il vous dédie les pas ce qu'il va faire. » Instinctivement, mon regard se tourna vers Carmen. Nos yeux se croisèrent. Tout son visage exprimait une haine absolue. Si elle avait pu me tuer sur place, elle l'aurait fait, ça ne faisait aucun doute. Elle me fixa quelques secondes, puis elle se retourna rageusement, se dirigea vers les vannes et prit place dans l'un d'eux, refusant d'assister à ce spectacle que le matador semblait vouloir m'offrir. À moi, et pas à elle. Regardez, mademoiselle Delors, c'est pour vous. Le taureau Balthazar venait de se lever tranquillement. Debout, il était terrifiant et absolument énorme. Une fumée presque surnaturelle s'échappait de son museau. Il fixa Ortega, la tête bien droite. Face à lui, le matador agitait lentement sa muleta, il la plaça sur la droite de son corps et donna une impulsion légère mais franche. L'animal fonça alors vers la cape. Sans bouger les pieds d'un millimètre, le torero évita la charge. José Ramón, qui connaissait pourtant parfaitement son patron, semblait émerveillé. « Regardez ça, il l'a déjà fixé dans la muleta. » La tête baissée du taureau suivait parfaitement la cape et la danse qu'Ortega lui faisait effectuer. « C'est ça le temple, mademoiselle Delors. » Je dois admettre que le spectacle était magnifique. J'étais envoûtée, troublée. L'instant était irréel et empreint d'une sensualité folle. Ortega se tenait droit, le regard fier. Il ne bougeait absolument pas, même lorsque Balthazar le frôlait. Parfois, lors d'une passe, il caressait le taureau avec une grande douceur et beaucoup d'érotisme. On sentait un respect immense entre les deux protagonistes, comme s'ils formaient un couple. C'était un moment sublime, magique, artistique. Le ballet dura presque 10 minutes, sans mise à mort. 10 minutes d'une intensité extrême, durant lesquelles je ressentis ce que je n'avais pas ressenti depuis plus de 15 ans. Une sensation enfouie que je pensais à jamais disparue. Des papillons dans le bas du ventre. Le matador quitta l'enclos en sautant par-dessus la clôture. Il frotta énergiquement ses vêtements, légèrement souillés par la bête. Il claqua ses pieds au sol, reprit son trench dans les bras de David et Vega et l'enfila avec classe. Toute l'assemblée l'applaudit. Sauf Carmen, restée prostrée dans le van aux vitres teintées. Paco avait filmé la totalité de la scène improbable. Il était aux anges. « C'était fou, Lise! Tu as vu ça? Tu ne pensais jamais qu'un mec te ferait un tel cadeau, pas vrai? » J'admets que c'était très beau. Beau? Tu plaisantes? C'était incroyable! Si mon père avait pu voir ça. Ortega qui improvise avec un taureau gracié. C'est comme si Messi allait taper dans le ballon avec des gamins dans les favelas. La magie en plus. Et c'était pour toi, Lise. Il en pense pour toi, ma belle, j'en suis certain. La chance que tu as. Donne-moi ta place. Allez, donne-la-moi. » Le monologue de Paco fut stoppé quand Ortega, parvenu à notre niveau, exécuta une révérence devant moi. Je le remerciai d'un signe de tête. J'aurais voulu lui dire merci, mais je ne parvenais pas à parler. Cette fois, il m'intimidait réellement. Il avait fait preuve d'un tel courage devant cet énorme taureau. De courage et de folie aussi. J'étais comme paralysée par tant de charisme. Il s'éloigna avec David et Vega. Perturbée, troublée, j'essayais de me recentrer sur mon enquête en interrogeant José Ramón Olano. David et Vega a hérité de tout cela après la mort de son père?
C'est tout comme, oui, même si c'est la femme de Victorino qui était propriétaire de la ganaderia.
David est à l'amour de la tauromachie. Il héritera donc de la ganaderia, je pense. Et sa sœur, des biens immobiliers que Victorino avait sur la côte catalane.
Enfin, je dis ça, je ne sais pas vraiment, mais je suppose, car Stella ne voudra pas de l'élevage.
Stella, c'est sa sœur?
Oui. Et pourquoi elle ne voudrait pas de l'élevage?
Parce qu'elle est anti-corrida, elle n'aime pas ça.
Elle adore les animaux. Elle gère une société de protection des chats et des chiens à Madrid. Je crois même qu'elle est végane. Alors, vous la voyez héritière d'un élevage de taureaux de combat ?
Elle a été entendue par la police dans le cadre de la mort de son père ?
Je crois, oui. Mais pourquoi ?
Ah non, vous ne croyez tout de même pas qu'elle aurait pu tuer son père ?
Et pourquoi pas ?
Mais parce qu'elle l'adorait, ça se voyait. Elle a 20 ans, mais avec lui, elle était encore une petite fille. Elle vénérait son père. Les enfants ne partagent pas toujours les passions de leurs parents.
Pas faux. Mais j'aimerais la rencontrer quand même.
D'après ce que j'ai compris, elle est présente à l'Hacienda. Elle est très amie avec Ortega. C'est un peu comme son oncle. On la verra donc probablement pour le déjeuner.
Nous mangerons ici ?
Oui, David a insisté. Ça vous permettra de profiler toute la famille. Il y avait du mépris dans la phrase de l'apoderado, lequel était vraisemblablement proche de la famille Vega. Pour autant, ma carrière m'avait appris que la grande majorité des crimes étaient commis par des proches des victimes. Je devais explorer cette piste. Même si Stella Vega avait un parfait alibi pour le jour du meurtre, elle avait très bien pu le commanditer.
Voilà, chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ou réécouter toutes les émissions de la radio sur www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour Android. Très bonne semaine et à bientôt !